DW. Magazine Santé.
Pas couverture santé universelle, il faut comprendre l'accès aux soins de qualité pour tout le monde sans que la personne souffre de problèmes financiers.
Ainsi définie, la couverture santé universelle concerne donc l'ensemble des services de santé essentiels. Cela va de la promotion de la santé à la prévention, au traitement, à la réadaptation et aux soins palliatifs. La couverture santé universelle, on s'y intéresse donc dans ce magazine. Mais avant, on va d'abord parler du paludisme et notamment de la résistance aux antipaludiques. Vous écoutez Capsule Santé, Carole Assignon en micro. Bonjour à toutes et à tous.
L'OMS a maintenant validé deux vaccins antipaludiques, le RTSS en 2022 et le R21 en 2023.
Dans une précédente émission, le professeur Antoine Berry, praticien hospitalier et chef du service de parasitologie du CHU de Toulouse, nous parlait du danger que continue de représenter le paludisme et de l'introduction désormais de la vaccination dans le plan de lutte contre la maladie. Aujourd'hui, on continue d'en parler.
Ce sont deux vaccins dont la cible antigénique est identique et qui, jusqu'à présent, ont montré une efficacité relativement similaire, même si le R21 a été quand même évalué puis moins longtemps, donc les données restent relativement parcellaires. Par rapport à d'autres vaccins contre certains virus, par exemple la polio, la rougeole, l'efficacité de ces vaccins est loin des 80-90% qui sont généralement la norme pour proposer un vaccin. Là, on est à une efficacité contre les formes graves aux alentours de 50%, voire un peu plus, ce qui est déjà une très bonne chose, mais qui ne correspond pas aux efficacités classiques des vaccins pour les enfants, pour les pathologies infectieuses. Malgré ça, on pense que ces vaccins seront très intéressants puisque l'idée, c'est un effet cumulatif. C'est-à-dire qu'il va falloir continuer à proposer des prophylaxies, par exemple la moustiquaire imprégnée. Pour les enfants qui vivent dans la ceinture sahélienne, il y a des traitements prophylactiques saisonniers, c'est-à-dire qu'on va leur donner un médicament pendant la saison des pluies, période où il y a le plus de paludisme. Le vaccin sera un élément supplémentaire qui, on l'espère, permettra, je dirais, de bien mieux contrôler la pathologie et donc d'être beaucoup plus efficace sur la morbidité et mortalité liée à ce parasite.
La multiplication des moyens de lutte contre le paludisme est d'autant plus importante qu'on observe depuis un certain temps de plus en plus de résistance aux antipaludéens.
Il y a eu émergence de résistance contre ces médicaments. Et donc, c'est une course-poursuite perpétuelle entre nouveaux médicaments et résistance. La résistance du parasite du paludisme vis-à-vis des antipaludiques est un phénomène d'adaptation. Lorsqu'on utilise de façon importante un médicament contre le paludisme, le parasite, qui a une grande capacité d'adaptation, une grande plasticité évolutive, est capable de s'adapter et donc d'acquérir des mutations qui lui permettent de résister de façon plus ou moins importante aux médicaments. Et donc, depuis les premiers antipaludiques, chloroquine, sulfadoxine pyrimétamine, puis l'artémisinine, il y a eu rapidement, plus ou moins rapidement, l'acquisition de résistance. À l'heure actuelle, il y a un gros souci pour l'Afrique, puisqu'on voit l'émergence de parasites qui résistent maintenant aux dérivés de l'artémisinine, qui constitue la base de traitement de tous les accès palustres en Afrique ou en Asie du Sud-Est. Et donc ça, c'est une inquiétude importante, puisqu'on a vu émerger ces résistances, d'abord plutôt dans l'est de l'Afrique, Burundi, Ouganda, et maintenant on s'aperçoit qu'il y a de l'émergence dans d'autres pays, et c'est une émergence qui est locale. Ce n'est pas l'introduction de ces parasites résistants qui ont d'abord émergé en Asie du Sud-Est, c'est vraiment les parasites africains qui, à cause de l'utilisation massive de ces antipaludiques qui provoquent donc l'adaptation de ce parasite et donc l'émergence de résistance. Et donc effectivement, c'est une inquiétude importante parce que à ce jour, il n'y a pas beaucoup d'alternatives à ces médicaments, même si il y a des essais relativement nombreux pour trouver de nouvelles associations de médicaments pour rester efficace contre le paludisme.
Pour un traitement de qualité contre le paludisme, nombreux sont sans doute ceux qui auraient aimé avoir une couverture santé universelle. Alors qu'est-ce que c'est? La réponse dans un instant.
DW.
Comment atteindre la couverture santé universelle? Dans de nombreux pays en Afrique, la réponse à cette question reste une préoccupation majeure. Dans presque tous les pays, les populations et principalement les couches vulnérables font face à de nombreux défis de santé et les politiques mises en place par les gouvernements sont souvent insuffisantes, d'où la nécessité d'appui de partenaires internationaux. Mais comment renforcer la résilience des systèmes de santé dans ces pays? Élément de réponse avec Rodrigue Guezoudji.
Ce n'est un secret pour personne. Les soins de santé de base en Afrique sont souvent hors de portée pour la majorité des populations. Les régimes de couverture mis en place dans les pays ne sont pas accessibles à tout le monde, ce qui entraîne de fortes inégalités. Pour essayer de corriger ces inégalités, plusieurs pays ont décidé, depuis 2019, d'adopter la couverture de santé universelle. Mais le concept reste encore assez méconnu. Trifoni Nkurunziza est gynécologue obstétricienne et conseillère régionale en santé maternelle et reproductive auprès de l'Organisation mondiale de la santé, OMS.
Par couverture santé universelle, il faut comprendre l'accès aux soins de qualité pour tout le monde sans que la personne souffre de problèmes financiers.
L'état des lieux de la situation sanitaire dans plusieurs pays, comme le Tchad, est une illustration qu'une large portion de la population à la quête de soins de santé essentiels fait toujours face à des dépenses pharaoniques qui les appauvrissent. Ce que regrette Singyabé Barnabas, directeur de la Caisse nationale d'assurance du Tchad.
Peu de Tchadiens connaissent la couverture santé universelle. Il va falloir aller vers eux. En Afrique et dans beaucoup d'autres pays ailleurs, il y a les barrières socio-culturelles qui existent et qui font que ce n'est pas tout à fait évident que les gens viennent volontairement pour bénéficier de cette prouesse-là que sont les prestations en matière de couverture santé universelle.
Nous sommes ici au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukoumagad Cotonou, où nous avons rencontré Nasser Sani Agata. Le jeune Béninois y a accompagné son père, victime d'un accident vasculaire cérébral, pour des soins urgents.
Donc là, il y a eu un AVC. On était basé à Porte-Nouveau. On avait commencé à faire les soins dans un hôpital privé, mais on trouvait que les soins n'étaient pas adéquats, ça prenait beaucoup trop de temps. On n'était pas satisfait des résultats. Donc la première réaction qu'on a eue, c'est de se rendre directement à l'hôpital de référence de Cotonou, qui est le CNHU.
Dans cet hôpital de référence, l'un des plus importants du Bénin, le père de Nasser a finalement pu être convenablement pris en charge au service de neurologie. Mais ce n'est pas le cas des usagers de tous les centres hospitaliers en Afrique. Malgré les efforts et les politiques mises en place, de nombreux défis subsistent, comme l'explique Trifoni Nkurunziza, conseillère régionale en santé maternelle et reproductive auprès de l'OMS.
Les financements ne sont pas suffisants. Le personnel de santé n'est pas suffisant, même si les pays font des efforts. Et parfois, les équipements et les médicaments ne sont pas suffisants. On trouve alors que les pays doivent encore faire beaucoup de progrès pour renforcer les ressources humaines en santé, les financements de la santé, les infrastructures et les équipements pour que les personnes qui sollicitent les soins puissent avoir accès à des soins de qualité, mais aussi sans avoir de dépenses catastrophiques.
À l'instar du Bénin et du Tchad, tous les pays s'efforcent d'atteindre la cible 3.8 des objectifs de développement durable consistant à concrétiser la couverture sanitaire universelle et des financements équitables qui tiennent compte des capacités contributives de chacun se révèlent indispensables pour y parvenir. Les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre bénéficient dans ce cadre de soutiens extérieurs, l'un des plus importants étant le fonds français Muskoka. Mais les réalités ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, fait observer Mireille Kamitatou, directrice régionale adjointe pour ONU Femmes, Afrique de l'Ouest et du Centre.
Chaque pays vient avec des ressources économiques, politiques, culturelles qui sont différentes. Et par conséquent, les actions qu'ONU Femmes, l'OMS, UNFPA mettent en place dans ces pays et l'UNICEF sont différentes et sont contextualisées aux besoins de ce pays.
Mireille Kamitatou apporte tout de même une nuance. La contribution du fonds français Muskoka en soutien au travail conjoint de ces quatre agences des Nations Unies, à savoir l'OMS, ONU Femmes, l'UNFPA et l'UNICEF, ne se substitue pas à la responsabilité des dirigeants africains face aux défis. Hélène Badini est conseillère régionale au bureau de l'ONU SUDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, basé à Dakar. Pour elle, au-delà des appuis des partenaires, une intégration des services s'impose pour que les objectifs de la couverture de santé universelle soient atteints.
On ne travaille pas ensemble. Une mère, on ne peut pas juste la considérer pour un certain nombre de maladies et puis ignorer les autres maladies. Donc on doit intégrer, l'intégration est la clé. Ça veut dire que si elle vient pour un palu, on doit saisir l'occasion pour la sensibiliser sur le VIH, saisir l'occasion pour la tester, tester son bébé. Et s'ils sont positifs, on les met sous traitement. Dans notre région, 37% des enfants vivant avec le VIH seulement ont accès au traitement. Ça veut dire qu'on a plus de 60% d'enfants de 0 à 4 ans qui n'ont pas accès au traitement. Et ça, c'est triste.
Il est donc urgent de corriger ces statistiques en apportant des solutions conséquentes et en accroissant les engagements non seulement financiers, mais également ceux techniques et politiques. Rodrigue Guézodje à Cotonou pour la Deutsche Welle.
Et c'est avec toutes ces explications sur la couverture santé universelle que prend fin ce magazine. D'ici au prochain numéro, rendez-vous sur nos différentes plateformes pour écouter le podcast de l'émission. Au revoir et à la semaine prochaine.